10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'Islam au présent, c'est une heure pour parler d'Islam tous les week-ends sur Beurre FM, plus précisément tous les samedis. Et le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Et comment on sait que ce n'est plus le mois de Ramadan? Eh bien, c'est parce que l'imam est en train de prendre son petit déjeuner.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, en effet, quand on dit bismillah, c'est qu'on va manger, Philippe.
Ah non, mais vous avez mangé,
on peut dire bismillah pour beaucoup de choses. Le bismillah n'est pas réservé au fait de commencer de manger. On peut dire bismillah pour toute chose que l'on va débuter. C'est très très bien, comme maintenant on peut dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Pourquoi on dit la bismillah d'ailleurs? On dit pas la bismillah?
La? Non, oui, bismillah.
Non, mais juste ça, j'ai compris.
Bi, ça veut dire au nom. On va dire la au nom. La au nom.
D'accord.
Bismi, ça veut dire au nom. Bi, c'est au. Et ismi, c'est nom. Bismillah, au nom d'Allah. Au nom d'Allah.
Bien, ben justement, voilà. Ce matin, nous allons parler du mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan, donc dixième mois de l'année musulmane. Comment ça se traduit d'ailleurs, Shawwal?
Alors d'abord parlons de son statut, le statut du mois de Shawwal. Shawwal n'est pas un mois sacré, mais par contre c'est un mois du pèlerinage. Voilà, c'est un mois du pèlerinage.
J'ai dit que je tousserais à chaque
c'est
fois.
C'est-à-dire
que...
qu'il est possible de venir à la Mecque pour accomplir ce qu'on appelle tawaf al-qudum, le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, la rotation autour de la Kaaba, avec l'intention d'accomplir le hajj, c'est-à-dire la umrah du hajj. Hein. C'est possible de le faire durant le mois de Shawwal, puisque c'est un mois du pèlerinage. Mais est-ce que c'est un mois sacré? La réponse est non. Le dixième mois du calendrier lunaire, Shawwal, n'est pas un mois sacré. Et donc, à partir de là, il n'est pas considéré dans les quatre mois qu'on appelle, nous, les mois sacrés de l'année égyrienne, que sont le mois de Dhul-Qi'da, qui est le onzième mois, Dhul-Hijja,
le douzième,
le premier, Muharram, et le septième, Rajab. C'est celui qui vient juste avant Sha'ban, c'est le septième.
Donc, les trois mois qui suivent le pèlerinage, donc.
Voilà. Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram sont trois mois qui sont sacrés. Et donc, avant l'avènement de l'islam, déjà les Arabes respectaient la sacralité de ces quatre mois. C'est-à-dire, ils considéraient comme ces mois-là comme des mois de trêve. Alors, à quoi ça servait que ces mois-là fassent une trêve? C'est pour que les caravanes puissent se déplacer dans la péninsule arabique. Il faut savoir que on n'est pas comme aujourd'hui où on avait un état de droit établi. Par une nation avec un état et un gouvernement, avec une police et une armée, etc. Il y avait rien de tout ça. Chaque tribu défendait son territoire, un petit peu comme quand on voit les films de cow-boys anciens, dès qu'on arrivait sur un territoire des Apaches, des Cheyennes, etc. Ben, c'est pareil, à l'époque des Arabes, il y avait les Banu Ratafan, Banu Asad, où tu rentrais d'un territoire à une autre qui était Masakin al-Qabila, c'est-à-dire le territoire sacré de la tribu. Et souvent, vous aviez des fettakin, c'est-à-dire des brigands, qui venaient et qui s'emparaient des caravanes. Sauf que ces brigands ne pouvaient plus s'en prendre aux caravanes des pèlerins qui décidaient de se déplacer. C'est-à-dire que le territoire devenait, le territoire de l'Arabie, hein, de la péninsule arabique, devenait un territoire neutre, totalement pacifié, où tout le monde pouvait se déplacer pour venir à la Mecque pour y accomplir les rites du Hajj. Donc le Hajj existait bien avant l'avènement de l'islam. Donc pendant le mois de Dhul-Qi'da, le 11e mois, c'est un mois de sursis et de trêve dans lequel les caravanes pouvaient venir à la Mecque. Donc un mois à la Mecque pour y accomplir le Hajj, ça on appelle Dhul-Hijja, le 12e mois, et un mois pour rentrer. Donc au Muharram, il fallait aussi qu'il soit sacré pour que les caravanes puissent rentrer chez elles en toute sécurité, sans qu'elles fassent l'objet d'agressions de la part de ces fameux tribus, de ces fameuses brigands qui jalonnaient le trajet de ces caravanes de pèlerins qui décidaient de partir à la Mecque. Bien entendu, les Mécois en profitaient pour faire leur business, leur commerce, et c'était carrément une mafia, hein. Faut le savoir que avant l'avènement de l'islam, c'était la prostitution, le racketage, les agressions, le vol, etc., etc. Les Mécois étaient insupportables, à tel point qu'il a fallu organiser une sorte de d'assemblée spéciale extraordinaire quand le prophète avait 20 ans. qu'on appelle la réunion de Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul, c'est une assemblée qui a eu lieu après une bataille qu'on appelle Harb al-Fijar. Je rappelle, le prophète, il a que 20 ans, il n'est pas encore prophète. Il n'a pas reçu la révélation. Mais c'est vrai que cet événement-là est extraordinaire parce que Harb al-Fijar a permis au Bani Kinan, c'est-à-dire la tribu qui gère la Mecque, de devenir la tribu suprême de l'Arabie, supérieure à toutes les autres, puisqu'elle avait réussi à vaincre les Banu Qays Aylan, qui étaient à Taïf, à Ratafan et aussi Hawazin, etc. Dans la région au-delà des montagnes de Surat, alors ou Sarawat, puisque pour que nos auditeurs comprennent, Philippe, c'est que l'Arabie Saoudite est coupée en deux par une chaîne de montagnes. Bon, coupée en deux, on va dire un bon quart se trouvant à l'ouest, qui s'appelle la région du Hijaz, c'est là où se trouvent la Mecque et Médine, et c'est ce qu'on appelle la région du Hijaz ou bien Tiham, c'est aussi on l'appelle aussi Tiham. Cette région-là est occupée essentiellement par Kinana, c'est les habitants de la Mecque et d'autres tribus certes, mais c'est elle la tribu la plus importante, c'est celle qui gère la Mecque. Et celles qui sont les tribus qui se trouvent au-delà des Sarawat, c'est-à-dire de cette chaîne de montagnes où on trouve Taif, Abha, etc. Ces villes contemporaines que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, sont occupés par d'autres tribus qui étaient à l'époque les plus grandes, les plus fortes tribus arabes qu'on appelle Qays Aylan, qui s'appelaient les Qays Aylan. Et donc, lors de cette bataille de Fijar, Kinan a montré sa suprématie et a montré que effectivement, il méritait d'être la tribu, celle qui devait être respectée et de manière à ce que elle puisse accueillir la révélation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a aussi participé à cette bataille qu'on appelle la bataille de Fijar. Et on l'appelle bataille de Fijar parce que certains disent que parce qu'il y a une transgression des mois sacrés, parce que mais aussi parce que les Mécois avaient largement abusé de leur pouvoir et de leur suprématie mécoise et de la Mecque et de la Kaaba, puisque on rappelle que 20 ans auparavant l'armée d'Abraha avait été anéantie par des oiseaux. On sait que l'année de l'éléphant, c'est l'année où le prophète est né, hein, c'est 20 ans avant que le prophète ait 20 ans, eh bien, la ville de la Mecque a été protégée par Dieu, quand Dieu a envoyé des oiseaux de l'enfer pour tuer et anéantir la grande armée d'Abraha. Donc à partir de là, cela a constitué une véritable forteresse pour les Mécois, que plus personne n'oserait s'en prendre et profaner les lieux sacrés de la Mecque, parce que tout le monde craindrait de se faire justement subir le même sort que Abraha et son armée. Donc ça a joué un rôle très important quant à la victoire des Mécois, donc des Quraysh, ou qu'on appelle aussi les Banu Kinana. C'est toujours la même chose, parce que Quraysh, c'est le deuxième nom de Nadr. Et Nadr, c'est le fils de Kinana. Donc finalement, je parle dans la généalogie du prophète. Le prophète est descendant de Kinana, qui est lui-même le père de Nadr, qui est le deuxième nom du mot Quraysh. Donc quand on dit Quraysh, c'est-à-dire les enfants de Quraysh, de Nadr ibn Kinana, pour que les gens comprennent. Donc voilà. Et donc à partir de là, Shawwal est donc un mois dans lequel on peut commencer à s'organiser et partir pour accomplir le pèlerinage, sauf qu'il n'est pas sacré. Donc les Arabes pouvaient commencer à agresser ceux qui partaient trop tôt. Mais ceux qui partaient au mois de Dhul-Qa'ada, c'est-à-dire le 11e mois, étaient totalement sécurisés et ne pouvaient pas subir aucune forme d'agression. Et à partir de là, cela leur garantissait de pouvoir partir et de venir tranquillement. Alors, que signifie le mois de Shawwal quand on cherche
la traduction, parce que c'est un mois qui a mauvaise réputation en fait.
Al-Kathiru Shawwal. Shawwal, Al-Kathiru Shawwal. Alors Shawwal, kisun min khish yu'abba'u fihi al-habbu aw al-daqiq wa nahwihi. Al-Shawwal, c'est-à-dire c'est le sac dans lequel on remplit le grain. Vous savez les fameux sacs je sais pas comment ça s'appelle avec du lin, c'est ça, on fabrique ça.
Ouais.
Dans lequel on remplissait le grain. Et Shawwal, c'est le mois où on allait récolter la mousson. C'est-à-dire qu'on allait récupérer tout ce que l'on pouvait recevoir des récoltes. Et donc, on remplissait Shawwal. Shawwal, c'est le fameux sac dans lequel on remplissait le blé ou bien le son ou bien l'avoine, etc., qui était bien entendu utilisé pour fabriquer ou faire cuire du pain, fabriquer d'abord de la farine et ensuite du pain pour que les gens se nourrissent. Donc al-shawl al-baqiya min, ça peut aussi dire al-baqiya min al-laban fi al-dira. Aussi c'est le résidu de laban qui reste dans la pie, c'est-à-dire la pie de la vache ou du chamel, de la chamelle. On appelle ça aussi al-shawl. Alors il y a aussi ouais, voilà, c'est on dit le verbe shal al-haqiba rafa'a, c'est tout ce qui est élevé. En même temps, c'est shawwal, c'est tout ce qui est élève, hein, tout ce qui est source d'élévation, shawwal, voilà. Donc ça aussi, il y a plusieurs significations. Ça peut être aussi la mort, la fin d'une vie, la fin d'une saison, hein, puisque shawwal, c'est le moment où est-ce que à la fin de la saison de la récolte au mois d'août va débuter bien entendu les mois de l'automne, et que c'est là que débute bien entendu la chute des arbres, etc. Et donc voilà pourquoi ce mois-là c'est fait appeler Shawwal. C'est Shawl qui veut dire le fameux sac dans lequel on remplit le blé et les récoltes de l'été.
Voilà. Donc, on continue à parler hein, de Shawl, Imam Abdelali, jusqu'à 11h sur Beurre FM. Et on va voir justement le jeûne de Shawl.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et l'imam Abdelali, Mamoun, Imam Abdelali, comment a été légiféré le jeûne du mois de Shawl?
Ben, tout simplement, à la fin du jeûne du Ramadan, le prophète, alayhi salatu wassalam, a, par conséquence, recommandé les musulmans à jeûner des jeûnes surérogatoires tout au long de l'année. Et pour cela, il a commencé par recommander le jeûne des 6 jours de Shawwal. Donc, le prophète a dit dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, dans lequel il dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan intégralement, et il le fait suivre par 6 jours de Shawwal, bien entendu, quand on parle de 6 jours de Shawwal, c'est le lendemain de l'Aïd. Hein, et non pas 3 jours après, j'ai eu des appels de personnes qui m'ont interpellé.
Moi j'ai eu 2 jours après.
Non. C'est tout de suite le lendemain de l'Aïd. Pourquoi on l'appelle l'Aïd al-Saghir, Philippe? Ça s'appelle la petite fête. Aïd al-Fitr, hein, son surnom aussi, parmi les surnoms de l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture, on l'appelle aussi la petite fête, parce qu'elle ne dure qu'un jour. C'est le premier Shawwal. Le lendemain du premier Shawwal, le 2 Shawwal, ou le 3 ou le 4, etc., ça n'est plus la fête. Donc à partir de là, il est tout à fait possible pour un musulman ou une musulmane de commencer à jeûner les jours de Shawwal.
Mais pourquoi jeûner après un mois de jeûne déjà?
Tout simplement pour que les gens ne s'arrêtent pas à jeûner ce qui est obligatoire. C'est pour encourager les gens en leur disant, voilà, le jeûne est une adoration qui ne se limite pas au Ramadan, que vous pouvez continuer à jeûner. Et continuer, le prophète dit dans un hadith, celui qui jeûne un jour dans l'année, en dehors du Ramadan, Dieu l'éloigne de l'enfer de 70 années. 70, la distance parcourue par l'ange Gabriel durant 70 années. C'est-à-dire 70 années-lumière. T'imagines, Philippe? 70 années-lumière, vu que les anges se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc 70 années-lumière l'éloigne de l'enfer. Et donc, il est donc très important de profiter de sa jeunesse, de sa santé, pour profiter de ce jeûne. En plus, c'est très bon pour la santé. C'est que de jeûner périodiquement. Alors, il est bien, comme je disais, de jeûner le mois de Shawwal. Je termine quand même le hadith rapporté par Muslim qui dit, le prophète a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il avait jeûné toute l'année. فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهَا. الدَّهْر, ça veut dire la vie. Mais s'il fait ça tous les ans, ça veut dire qu'il a jeûné toute la vie. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme on le sait, le prophète nous a répété à maintes reprises que chaque bonne action est multipliée par 10. La récompense est multipliée par 10. Le hadith est clair. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Celui qui a une intention de faire une bonne action et ne l'accomplit pas, Dieu lui accordera une hasana. C'est-à-dire un bon point. C'est le fameux bon point que t'aimes pas trop, Philippe. Le hadith là, il parle justement, il va comptabiliser en bon point, les bonnes actions que le prophète évoque dans ce hadith-là. Il dit, celui qui a une intention simplement de faire une bonne action et qui ne la fait pas, Dieu lui accorde quand même une bonne action, un bon point, une hasana. فَإِنْ عَمِلَهَا, s'il l'a fait, كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ, elle lui sera accordée comme 10 hasana, إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضَعْفٍ, jusqu'à 700 fois sa valeur. Et là, il peut la multiplier jusqu'à 700 fois. Et ensuite, il dit, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ falam ya'malha, celui qui a eu l'intention de commettre une mauvaise action, il peut la faire, mais il ne la fait pas, s'abstient, kutibat lahu hasana, lui aussi lui sera compté une bonne action. Parce que le fait de s'abstenir de faire le mal, il peut le faire, il ne le fait pas, donc il se retient, il y a l'effort, et bien Dieu pour cela récompense le croyant. Hier une personne m'a posé la question, est-ce que je suis récompensé en donnant l'argent de riba aux pauvres? Bah, je lui dis, normalement, Allah dit dans le prophète dit dans un hadith, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dieu est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Étant donné que riba n'est pas bon, Dieu ne l'accepte pas. Mais par contre, comme il y a une démarche de s'abstenir de commettre le péché de consommer riba, de consommer l'argent qui a été acquis de manière malhonnête, de manière illicite, eh bien, il y a cet effort de s'abstenir de commettre le péché qui te rapporte quand même des hasanats, puisque cet effort-là, Dieu n'est pas indifférent à cela et considère que c'est comme quelqu'un, par exemple, il se retrouve seul, je sais pas moi, avec une fille, elle se propose à lui, et lui s'abstient, il dit, ma'ad Allah, comme l'a fait le prophète Youssef, alayhi salam, quand il s'est retrouvé tout seul avec Zulikha, il dit, walaqad hammat bihi, wa hamma biha. Donc, il y a eu cette envie réciproque, mais Dieu a préservé son prophète. Sauf si il avait vu la preuve venant de Dieu. Donc à partir de là, quand une personne s'abstient de commettre le péché, elle est récompensée. Et là, c'est une des grandes récompenses puisque le prophète dit, parmi les sept catégories des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour de la résurrection, le jour où se rapprochera le soleil des têtes et brûlera les têtes des gens, eh bien le prophète dit, parmi les sept catégories des gens qui seront sous l'ombre de Dieu, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Une femme qui sera belle et pleine de pouvoir, etc., aura la capacité de lui proposer de commettre le péché, la fornication, et il s'abstiendra en disant ma'ad Allah, c'est-à-dire ou inni akhafu Allah, je crains Dieu. Et donc l'abstinence est un acte de truc. Et donc à partir de là, le fait de s'abstenir de commettre un péché est tout à fait recommandé. Et donc à la fin de ce hadith, il dit wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha. Donc celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et il l'a fait, il ne lui sera compté qu'une seule mauvaise action. C'est-à-dire il n'aura qu'un seul mauvais point. Une seule sayyi'a et non pas Achara.
C'est pas x10.
C'est pas x10. Tu vois, regarde combien la générosité de Dieu est immense et sa miséricorde. Eh bien, Dieu ne juge les péchés qu'une seule fois celui qui l'a commet, alors que l'action, elle est décuplée. Donc, quand tu jeûnes le mois de Shawwal et que tu jeûnes le ramadan avant, c'est 30 plus 6, ça fait 36. Si tu multiplies par 10, c'est 36 jours. Ça nous fait bien 360 jours. Étant donné que l'année égyrienne n'a que 355 jours, nous sommes non seulement sur une année totale et plus 5 jours. On va dire à peu près 4-5 jours. Donc, il est bien de jeûner le mois de, les 6 jours de Shawwal, de manière à ce que tu puisses avoir la récompense d'une année complète. En plus de cela, ces jeûnes surérogatoires, eh bien, peuvent encore une fois être l'opportunité de chaque croyant qui chemine vers Dieu en jeûnant le lundi et le jeudi, en jeûnant les 3 jours de pleine lune, c'est-à-dire que le 13e, le 14e et le 15e jour du mois lunaire. Ces 3 jours-là, eux aussi, font l'objet d'une recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se jeûner le jour de Arafat, voire même les jours qui précèdent Arafat, les 10 premiers jours, plutôt les 9 premiers jours, qui précèdent la grande fête de Eid al-Adha, la grande fête. Là, on parle bien de grande fête, Al-Eid al-Kabir, qui est la fête du mouton. Donc, je rappelle aux musulmans qu'il faut pas toucher aux moutons dans les prairies, hein, parce que on pourrait avoir des remarques déplaisantes.
Ah, moi j'ai cru que la vanne était restée avec le mois de Ramadan et je vois qu'elle nous suit dans Shawwal.
Il faut toujours faire une piqûre de rappel, c'est important.
Faut laisser les moutons jusqu'à l'Aïd. Voilà.
On les achète.
El-Kébir.
Et on les achète avec de l'argent halal de manière à ce qu'Allah Azza wa Jal puisse exaucer notre adoration. Le rite est un rite très important, donc il faut le faire avec de l'argent halal.
Alors,
donc,
Imam Abdelali, quel est le statut de ce jeûne de Shawwal?
Il est recommandé, et comme je le disais, chaque jour jeûné pendant ce mois t'éloigne de l'enfer de 70 années. Et bien entendu, t'accorde une récompense dont la quantité n'est pas définie, n'est pas quantifiée, car le prophète dit, en parlant à la place de Dieu, où il dit, oh, Dieu dit, c'est-à-dire Dieu dit, kullu amal ibn Adam lahu, chaque adoration lui est comptée une hasana pour 10, jusqu'à 700 fois sa valeur, il la somme, sauf le jeûne. C'est la seule adoration qui n'est pas quantifiée, qui n'est pas, on va dire, calculée en nombre de hasanat. Ça ne se compte pas, le jeûne. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ Car elle est à moi, moi, Dieu, le Dieu infini, je la récompense de manière infinie, c'est-à-dire infiniment. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, on ne peut pas quantifier tellement la récompense, cette immense, que de jeûner. Donc, il est très tout à fait honorable et appréciable que le croyant pratique le jeûne. C'est une bonne chose pour ceux qui ont la force, la santé et la volonté de pouvoir le faire. Moi, je l'encourage très fortement. Alors, une question qui se pose souvent, Philippe, tu la connais ? Toujours qui se répète. Vas-y, je te laisse la poser.
Philippe. Non, je tousse.
Vas-y, tousse.
Non, je ne sais pas.
Bah, arrête de...
J'en ai plein des questions, mais je ne sais pas si...
Je te laisse poser des questions.
Non, je dis comment le prophète jeûnait-il pendant lui ces jours de Shawwal ? D'abord, est-ce qu'il jeûnait pendant
Shawwal ?
Ah oui,
bien sûr, il jeûnait. Tous les ans, il pratiquait le jeûne de Shawwal. Il complétait le mois du Ramadan avec les 6 jours du Shawwal. Donc, quand il donnait une recommandation, il était le premier à l'appliquer, bien entendu. Et il n'était pas celui qui disait aux autres fêtes, et moi, je vous regarde faire. Hein, c'était le premier modèle, le premier exemple. Et donc, il avait un comportement exemplaire dans lequel son comportement était tout à fait compatible et en totale compatibilité avec ses paroles. Les paroles et les actes du prophète n'étaient qu'un. Hein. Le prophète disait et faisait.
Mais finalement, il jeûnait plus pendant le mois de Shaban que le mois de Shawwal.
Oui, tout à fait. Il jeûnait 6 jours. Le mois de Shawwal, c'est 6 jours. Le mois de Shaban, il disait, ça c'est mon mois. C'est le mois où Dieu reçoit mes bonnes actions. Et il dit, c'est pour cela que j'aime jeûner Sha'ban. On parle du Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier
hijrien. C'est celui qui précède le mois de Ramadan.
Voilà, qui est avant le mois du Ramadan. Mm-hmm. Eh bien, ce mois-là, disait le prophète, c'est le mois où ce que Dieu examine nos actions. Et moi, il dit, j'aime que Dieu examine mes actions et expose mes actions alors que je suis en jeûne. Et aussi, pareil pour le lundi et... Le jeudi sont des jours aussi où Dieu examine et expose les actions de chacun d'entre nous. Et donc pour cela, le prophète aimait jeûner ce mois, ces jours de Sha'ban et les jours de semaine que sont le lundi et le jeudi. Le prophète est né un lundi et il disait, pour remercier Dieu de m'avoir donné la vie, je jeûne le lundi. Parce que je suis né un lundi. Dieu m'a donné la vie et m'a fait sortir du ventre de ma mère un lundi. Je suis né un lundi, le 12 Rabi al-Awwal, et j'aime jeûner ce jour-là.
Alors, beaucoup de questions qui arrivent concernant les règles du jeûne de ce mois de Shawwal. On va y répondre dans un instant, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, on parle des 6 jours de Shawwal, hein. C'est comme ça qu'on les appelle, Imam Abdelhaï,
ouais,
d'ailleurs, les 6 jours de Shawwal. Je rappelle d'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous pouvez poser vos questions au standard de l'Imam Abdelhaï Mamoun, comme vous le faites pendant le mois du Ramadan, pendant ce mois de Shawwal, hein, si vous avez des questions. Donc, rappelez votre numéro, Imam Abdelhaï.
Alors, c'est le 06 29 25 35 00. Je vais le répéter, c'est le 06 29 25, 35, 00. Alors, je rappelle que tout au long de l'année, j'organise la Umra. J'en ai une grosse au mois d'octobre, Inch'Allah, du 25 octobre au 4 novembre, Inch'Allah, la Umra. Alors, pour le Hajj, il y a encore des places, mais ça vraiment, vraiment, il faut vraiment que vous appuyez rapidement pour ceux qui veulent Hajj. Alors, bien sûr, tous ceux qui ont plus de 65 ans, il est inutile de m'appeler pour le Hajj, puisque vous ne pourrez pas partir cette année, malheureusement.
Vous êtes gérontophobe.
Alors, c'est rien à voir avec ma volonté, c'est les décisions du gouvernement saoudien. C'est une dépêche officielle, tout le monde le sait aujourd'hui. Toutes les personnes, pour cette année 2022, correspondant à l'année 1443, ne pourront pas partir, ceux qui ont plus de 65 ans. 65 années révolues.
Bien. Donc, alors, on va continuer à parler de ce mois de Shawwal et des mérites de ce jeûne, hein, de 6 jours. On parle des 6 jours de Shawwal. Est-ce qu'on doit les faire d'affilée, Imam Abdelhaï?
Non, pas du tout. On n'est pas obligé de les faire d'affilée. On n'est même pas obligé de le faire dès le lendemain de l'Eid. On peut, comme on le sait, les étaler sur tout le mois. Donc, on peut, par exemple, appliquer la sunna du prophète, 2 sunna en même temps, à la fois faire les 6 jours de Shawwal et en même temps décider de les faire le lundi et le jeudi. Et en même temps, les 3 jours de pleine lune du mois de Shawwal, puisque le mois de Shawwal, lui aussi, il a 3 jours de pleine
lune.
Donc,
on s'organise comme on veut finalement.
Oui, on s'organise. Et même, comme je le dis, la meilleure, c'est de la faire comme je le dis là. Vous jeûnez le lundi et le jeudi, et les trois nuits les plus longues, les trois jours où la nuit, vous avez des pleines lunes, hein, ce qu'on appelle Ayyam al-Bid, eh bien, vous choisissez ces trois jours-là pour jeûner les jours de Shawwal, les fameux six jours de Shawwal. On pourrait, si on a le courage, la motivation, pour certaines personnes qui, pendant le mois du Ramadan, n'ont pas pu jeûner et se sentent obligées, et bien entendu, ils ont l'obligation de rattraper leur jour de jeûne, c'est de faire tout pendant le mois de Shawwal, à la fois de jeûner les six jours de Shawwal et aussi de rattraper les jours dans lesquels ils n'ont pas pu jeûner pour une raison X ou Y, soit un voyage, soit une maladie, ou soit pour toutes les femmes, comme on le sait, les femmes qui sont indisposées une fois par mois, et ça peut durer 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend les femmes, eh bien, ces jours-là qu'elles n'ont pas pu jeûner, elles peuvent le faire durant le mois de Shawwal. Si maintenant une personne décide, Philippe, d'ajourner à une date ultérieure le rattrapage, eh bien c'est tout à fait possible. Et il y en a, ils vont me dire, ouais mais non cheikh, on peut pas, parce qu'il faut d'abord rattraper l'obligatoire et après on fait le surérogatoire. C'est-à-dire les six jours de Shawwal ne sont pas obligatoires, on doit les faire après le fait de rattraper ce qu'on appelle le dayn, c'est-à-dire les dettes du Ramadan. Eh bien, moi, je dis.
Ce qui peut sembler logique. C'est-à-dire commencer par rattraper ce qui est obligatoire.
Non.
Et ensuite faire ce qui n'est
pas. Ça, c'est quand on n'a pas le temps. Je donne un exemple. Tout le monde sait qu'il existe des prières surérogatoires que l'on va faire après l'appel à la prière. C'est-à-dire, quand le moment de la prière obligatoire débute, c'est-à-dire la plage horaire. Par exemple, un exemple. Salat al-Subh. La prière de Subh se fait dès que l'adhan al-Fajr. Dès qu'on a l'adhan al-fajr, on doit accomplir la prière obligatoire qui s'appelle salat al-subh. Tout le monde le sait ça. C'est une prière obligatoire à voix haute, etc. De deux unités. Mais tout le monde sait aussi qu'avant de prier subh, on va tous prier une prière surérogatoire qui s'appelle la sunnah de al-fajr. Et pourtant, on l'a bien fait avant subh. C'est-à-dire, alors même que Dieu nous demande de faire notre prière obligatoire, qui est subh, on commence par une prière surérogatoire, non obligatoire, avant de faire notre prière obligatoire. C'est-à-dire, on fait le fajr avant de prier le subh. Ben alors, pourquoi pas, puisqu'on a le temps de rattraper nos dettes du Ramadan, qui, je le rappelle, une dette obligatoire, je ne pourrais pas la précéder par un jeûne surérogatoire, sachant que j'ai le temps. J'ai beaucoup de jours devant moi, puisque j'ai jusqu'au Ramadan de l'année prochaine pour rattraper ma dette. Et Aïcha, radiallahu anha, souvent attendait jusqu'au dernier mois, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, pour rattraper les jours de l'année précédente. Donc ça montre bien qu'il est tout à fait possible de commencer par le jeûne de Shawwal avant de rattraper sa dette du Ramadan qui vient de passer, parce que il est possible, avant de faire un acte obligatoire dans lequel nous avons une plage horaire qui est la prière, c'est l'analogie que je fais là maintenant, quand vous avez salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-isha, salat al-subh, eh bien vous savez que vous avez cette prière obligatoire à faire, et pourtant avant de la faire, vous vous autorisez à faire une prière surérogatoire, c'est-à-dire une prière qui n'est pas obligatoire, alors que vous avez cette prière obligatoire à faire. Donc, à partir du moment où on a une plage, on a de la flexibilité, on a une largesse de temps pour faire son acte obligatoire, et que l'on veut faire un acte surérogatoire avant, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. C'est exactement la situation pour le jeûne de Shawwal. Vous pouvez jeûner Shawwal et rattraper votre dette plus tard, comme on le fait pour nos prières quotidiennes, qui sont précédés souvent de prières surérogatoires.
Comment on manifeste son intention de jeûner? Est-ce que c'est une intention particulière pour Shawwal?
Non, on dit le jeûne, même pas, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Le matin, vous vous levez pour Sahur, comme vous faites pendant le Ramadan, vous vous levez et vous mangez.
Pour le mois de Ramadan, il faut quand même donner son intention.
L'intention dans sa tête, hein. Il n'y a pas de mot à dire, il n'y a pas de formule.
Mais il faut
l'intention, c'est mahalul qalb, comme le disent les ulama, les savants disent que l'intention, sa place est dans le cœur, il n'y a pas de mot à dire, même pour la prière. Hein. Il y a des gens qui, avant de commencer la prière, il prononce une formule, nawaitu salat al-asri munfaridan kada kada. Non, il y a pas de formule à dire avec la bouche. Simplement, tu sais que quand tu fais la iqama, que tu vas faire salat al-asr ou salat ad-dhuhr ou salat pareil, toutes les intentions n'ont, même la omra, il y en a des gens, ils pensent que quand on fait la omra, il faut dire la formule labbaik allahumma omratan la riya fiha wa la sum'a, etc. Bon, c'est pas interdit de le dire, mais il n'y a pas d'obligation à tenir ce genre de formule. Vous pouvez très bien mettre vos habits de sacralisation et rentrer dans le territoire sacré qu'on appelle le miqat et aller accomplir une umrah sans dire quoi que ce soit, sans même vous arrêter à la mosquée de Dhul Hulaifa, qui est souvent la fameuse frontière que ne franchit les pèlerins que seulement s'ils se sentent obligés de rentrer dans la mosquée, de prier deux unités rak'atayn. Il n'y a pas de rak'atay al-umrah. Ça n'existe pas. C'est directement, vous avez l'ihram, vous rentrez dans le territoire sacré, vous allez à la Mecque, vous faites vos sept tours autour de la Kaaba, vous salez rak'atayn, vous faites vos deux unités derrière Maqam Ibrahim, vous faites le Safa wal Marwa sept fois aller-retour, et ensuite vous coupez vos cheveux et la umrah est terminée. Voilà ce qu'est qu'une umrah. Si vous la faites bien sûr avec moi, vous allez apprendre à la faire en plus en tenant toutes les belles formules, les duas, les invocations. Donc ceux qui sont vraiment en vie, qui ont déjà été, parce qu'il faut y aller pour vraiment avoir, pour être contaminé, pour être avoir une addiction à ce lieu sacré qui est magnifique et qui est un moyen de se ressourcer de manière extraordinaire. Donc ceux qui sont intéressés, le 06 29 25 35 00, je répète 06 29 25 35 00. Ceux qui ont aussi un être cher qu'ils ont perdu et qui n'avaient pas fait le hajj ou qui n'avaient pas fait la umrah et qui souhaitent organiser pour lui un hajj ou une umrah, aussi pareil, vous pouvez m'appeler. On peut organiser ça avec des étudiants de Médine au 06 29 25 35 00. Inch'Allah ta'ala. Et on pourra organiser pour ces personnes décédées ou personnes très malades ou en fin de vie pour les personnes âgées, etc.
Imam Abdelali, est-ce qu'on peut cumuler l'intention de jeûner Shawwal avec des jours à rattraper?
Non, on ne doit pas faire ça parce qu'on ne peut à ce moment-là le compte ne sera pas bon, puisque si on a jeûné que seulement 24 jours du Ramadan, par exemple, parce que les 6 jours on était indisposé, une femme indisposée par exemple, une femme était indisposée pendant 6 jours, donc elle n'a jeûné que 24 jours. Et qu'après le Ramadan, elle fait les 6 jours de Shawwal avec l'intention de rattraper. Elle en aura fait combien, Philippe, au total? Elle en aura fait 24
elle
pendant
aura
le
fait
Ramadan.
24 plus 6.
Ça fait 30. Donc ils sont où? 30 fois 10, ça fait 300. Il est où les 360 qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir avoir l'équivalent de jeûner toute l'année? Hein, puisqu'une année ne fait pas 300 jours, elle fait bien 305 jours. 355 jours minimum et 360. Donc il faut jeûner les jours de Shawwal, comme je le disais. Vous faites vos 6 jours de Shawwal, il n'y a pas de difficulté. Et quand l'hiver vient, par exemple, au mois de décembre, au mois de novembre, au mois de janvier, et vous avez envie de jeûner tranquillement vos jours que vous n'avez pas jeûné pendant ce Ramadan-là, vous le faites tranquillement un lundi, un jeudi, les 3 jours de pleine lune, et puis, alhamdoulilah, le compte est bon.
Le prophète...
Étaler. Ce qui est bien, c'est qu'il faut étaler. Hein, le prophète dit, khayrul umuri
adwamuha. Faites-moi signe quand vous partez, comme ça m'évitera de...
Je voudrais dire, c'est important, oui. C'est que Dieu aime les actions qui sont pérennes. Dieu aime le croyant marathonien, et non pas le sprinteur qui fait beaucoup d'un seul coup, il s'arrête. Le fait de pratiquer spontanément quelque chose et de s'arrêter après, Dieu l'aime beaucoup moins qu'une action qui est étalée dans l'année et dans le temps.
Voilà. Je voulais terminer avec le prophète qui s'est marié avec Aïcha au mois de Shawwal.
Oui, il s'est marié avec Aïcha au Oumul Mu'min radiallahu anha. Elle était petite, elle n'avait que 7 ans quand il a fait le aqd, ce qu'on appelle l'acte de mariage, mais il a consommé, elle avait 12 ans. Bon, 12 ans, c'est plus la même chose, c'est une femme déjà bien formée. Donc, alhamdoulilah, le prophète n'a touché à sa femme que seulement quand il était sûr qu'elle était bien une femme en plein essor, comme se faisait au Moyen-Âge des mariages de rois, etc., qui se mariaient avec des jeunes femmes de 12 ans. Donc aussi, il y a eu cette bataille de Uhud pendant le mois de... Donc beaucoup d'événements ont eu lieu pendant le mois de Shawwal. On aura peut-être une autre occasion d'en parler.
De revenir sur cette bataille d'Uhud, d'ailleurs.
Qui a été aussi une victoire pour les musulmans et qui a montré que le prophète, sa ville n'était pas accessible à n'importe qui. Personne ne pouvait se permettre de profaner les lieux sacrés de Médine comme bon lui semble. Voilà, il leur a montré cela. Même s'il y a eu beaucoup de pertes, mais c'est une autre histoire.
L'islam au présent, sur Beurre FM, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Imam Abdelali, merci de nous avoir écoutés. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.